Bonjour à tous. J'aimerais, pour introduire cette méditation, lire deux versets. Dans le psaume 102, c'est un psaume où celui qui écrit ce psaume est dans une misère totale et dans un malheur total. Et dans son malheur, il exprime à Dieu son malheur, il dit à Dieu tout ce qui ne va pas dans sa vie. À un moment donné, il a un sursaut de foi et il considère que Dieu est au ciel, qu'il siège et qu'à lui, tout appartient. Et nous lisons ceci au verset 19 de ce psaume 102. « Que cela soit écrit pour la génération future et le peuple qui sera créé louera l'Éternel, car il se penche du haut de son lieu saint, des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les soupirs du prisonnier, pour délivrer ceux qui sont en danger de mort. » La version Sommer dit ceci, « Car il se penche du haut de son lieu saint, des cieux, l'Éternel regarde la terre. » L'Éternel qui est tout en haut dans le ciel, pourtant a son regard sur chacun d'entre nous, sur cette terre, pour écouter les soupirs du prisonnier. Et pour délivrer ceux qui sont en danger de mort. Il écoute les soupirs du prisonnier. Les soupirs, ce sont des prières qu'on n'ose même pas faire. Ce sont des soupirs, ce sont des respirations, ce sont des inspirations, c'est des choses qu'on émet sans même s'en rendre compte. L'Éternel les entend. Alors que tu es peut-être en prison cet après-midi, j'aimerais pouvoir te dire que tu peux être libéré. Tu peux être libéré de cette prison. Cette semaine, je regardais un peu les actualités et par rapport à ce message, j'ai fait aussi quelques recherches de faits d'actualité. Et j'ai trouvé deux histoires qui... Je vais quand même vous les citer parce que j'avais à cœur de vous les relater. Elles font froid dans le dos, mais ça fait rien. J'avais à cœur de vous en parler cet après-midi. Une première histoire qui date d'il n'y a pas longtemps. Il y a un procès en cours en ce moment. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire des bébés volés. Les faits remontent à 1969. Nous sommes à la clinique madrilène de San Ramon. Un prêtre discute avec son ami, le docteur Eduardo Vela. Il lui parle d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants. La femme qui travaille comme bénévole dans un couvent lui a fait part de son désarroi. Le gynécologue rencontre le couple le 5 juin. Le praticien les informe qu'il lui est possible de leur donner un nouveau-né hors la loi. Marché conclu. Tous trois conviennent de cacher la réelle identité du bébé grâce à une falsification dans le registre d'état civil. Un simple tour de passe-passe en écriture. Il permet au bébé volé de naître officiellement. L'enfant volé se trouve... être nommée Inès Madrigal. Aujourd'hui, près de 50 ans après les faits, cette femme accuse Eduardo Vela d'avoir falsifié son certificat de naissance. Comment a-t-elle pu savoir? Sa mère adoptive, aujourd'hui décédée, lui a un jour avoué la vérité. Inès Madrigal porte plainte. C'est terrible quand même. Hein, c'est terrible. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Des enfants qui sont nés, qui ont grandi avec des parents qui pensaient être les leurs, et dès la naissance, un mensonge est établi. Dès la naissance, un mensonge est établi. Il y a une autre histoire qui nous parle d'une situation terrible, c'est celle des maisons de l'horreur, vous savez, ces parents qui ont séquestré des enfants, prisonniers, des années et des années, sans même qu'ils puissent voir le jour, sans même qu'ils puissent voir la vraie liberté. Vous combinez ces deux histoires et vous avez l'histoire de l'humanité. L'homme n'a rien inventé. L'homme n'a rien inventé. Et ces choses qui sont macabres, qui font froid dans le dos même, j'en tremble en parlant, c'est quelque chose que le diable a fait depuis le début, dès l'origine. Quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé dans le livre de la Genèse. On va lire un ou deux passages dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de parler. Mais si. Je vais faire un parallèle très rapidement, vous allez comprendre. Verset 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Je sais pas où est-ce qu'elle a vu tout ça, mais juste en regardant, elle a vu qu'il était bon. C'est marrant, hein, comment juste en regardant des fois certaines choses, on s'imagine le goût que ça peut avoir, mais des fois ça n'a rien à voir. Mais en regardant le fruit, elle voit quelque chose de bon. Elle discerne quelque chose. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. J'aimerais souligner deux choses. Adam et Ève étaient dans un jardin où tout était parfait, le mal n'existait pas. J'aimerais juste qu'on puisse se poser la question, comment aurait-elle pu soupçonner un seul instant qu'on lui dise un mensonge ? Y avez-vous déjà réfléchi ? On a tendance à taper sur Adam et Ève sans cesse. Mais Adam et Ève ne connaissaient pas le mensonge. Et alors que quelqu'un vient les trouver, ils sont dans une innocence totale, dans une naïveté totale. Et le parallèle que j'aimerais faire, c'est ça. C'est des parents qui disent à leurs enfants, surtout, surtout, vous ne parlez jamais aux inconnus. Alors, un cadre est posé aux enfants, et on peut imaginer des scènes où les enfants jouent entre copains dans un parc, et un jour, un inconnu arrive, propose des bonbons, et les enfants, ils ont le choix. Soit ils écoutent le conseil de leurs parents, ou soit ils refusent. Et ils sont attirés par les bonbons, parce qu'ils ont l'air d'être bons. Et ces enfants-là, sans faire attention, se retrouvent pris au piège. Ils suivent cet inconnu qui va procéder à un enlèvement. Ces enfants sont enlevés, ils sont punis, entre guillemets. Ils sont punis par quoi, d'ailleurs ? Ils sont punis par leurs parents qui veulent exercer la justice vis-à-vis d'eux ? Non. Ils sont punis par quoi ? Par la conséquence de leur désobéissance. C'est tout. Dans quel état sont les parents qui ont leurs enfants enlevés ? Vous croyez qu'ils sont heureux de la situation ? Vous croyez que les parents se disent « Eh ben, il m'a pas écouté, c'est bien fait pour lui. » Vous croyez que c'est ça ? Non. Tout le monde sait très bien que des parents qui perdent leurs enfants, ils ont perdu une partie d'eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils font de suite ? Ils lancent des avis de recherche partout. Parce qu'ils sont malheureux comme tout d'avoir perdu leurs enfants. Ils ont été enlevés. C'est exactement ce qui s'est passé ici dans cette histoire. L'humanité tout entière a été enlevée, a été volée à ses parents. Dieu est notre Père. Dieu est le Père, le Créateur des hommes et des femmes. Il est notre Père. Et l'humanité entière lui a été volée, subtilisée par ce petit tour de passe-passe, comme un enlèvement. Et l'humanité tout entière se retrouve emprisonnée dans une maison. L'humanité tout entière se retrouve ainsi sans pouvoir voir le jour. Et elle est séquestrée depuis des lustres. À l'intérieur, ces enfants qui ont été mis en prison ont eu d'autres enfants, etc., etc. Et l'humanité se retrouve ainsi en prison. Le diable n'est pas un mensonge près. Et il continue. Et il fait croire à tous ces enfants qui sont dans cette maison que leurs parents n'existent pas, que ne faut pas s'inquiéter, ne t'inquiète pas, je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Mais pourtant, il y a quand même un mal-être chez chacun d'entre nous. Celui qui ne connaît pas Dieu comme son Père Céleste, il vit un mal de vivre et c'est tout à fait normal parce que c'est comme des enfants qui sont nés sous X. C'est comme des enfants qui ont perdu leurs parents et ils se posent, ils se disent quand même, il y a quelque chose de bizarre, je vis pas bien, il y a quelque chose. Le discours qui m'est donné, j'ai du mal à le croire. Comment on a pu être arrivé ici ? Comment ça se pourrait qu'on vienne de nulle part ? C'est pas possible. Et quand on réfléchit, on commence à se poser des questions. Vous savez, toutes ces personnes qui... ça existe, des personnes qui ont perdu leur identité, comme ce cas de bébé volé. Maintenant, cette jeune femme, elle a un nom, mais elle ne connaît pas ses parents. Qu'est-ce qu'elle va faire, d'après vous? Elle va chercher qui sont ses vrais parents. Parce que quelqu'un qui naît sous X, il a ce besoin de savoir qui sont ses parents. C'est comme ça. Et ils en sont malheureux de ne pas connaître leur vraie origine. Et l'humanité tout entière est dans ce même mal-être. Nous sommes tous dans ce mal-être. Nous sommes tous dans cette situation où un jour, on se dit « Mais c'est pas possible, on ne peut pas descendre du singe, c'est pas possible. On ne peut pas descendre de rien du tout. » Il y a forcément quelqu'un derrière tout ça. Quand je regarde la terre, quand je regarde le ciel, quand je regarde les oiseaux qui volent, quand je regarde la nature, comment elle est bien faite, quand je regarde toutes ces choses qui sont autour de moi, quand je vois que tout est aussi bien fait, et moi je viens de nulle part, c'est pas possible. Comment croire cela? On m'a enfermé dans une maison et on essaye de me faire croire quelque chose, mais j'arrive pas à y croire, c'est pas possible. Le diable essaye. Alors, il ne peut pas empêcher certaines questions. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui va se passer si je meurs? Comment, de quoi mon avenir va être-t-il tracé? C'est des questions qui sont sans réponse quand on est ainsi en prison. Quand on a ainsi perdu notre identité, on ne sait plus qui on est. On ne sait pas pourquoi on est là. On ne sait pas qui sont nos parents. On ne sait pas quel est notre but dans la vie. On ne sait rien. Et on est là avec nos questions. Et on ne sait pas qui... on ne sait pas quoi faire. Dans cette maison de l'horreur, je dirais, Dieu avait prévu quand même une solution. Il s'est infiltré. Il s'est fait enfant parmi tous ses enfants. Il a pris la même enveloppe que ses prisonniers. Il s'est fait prisonnier parmi les prisonniers. Et dans cette maison, imaginons des conditions difficiles où le maître de la maison est un despote. Le maître de la maison n'a qu'une seule envie, c'est assouvir ses désirs méchants. C'est ce que fait le diable avec l'humanité. Quand on regarde autour de nous, on voit que tous les hommes s'entretuent autour de nous. C'est la loi de la jungle. Et dans cette maison-là, c'est ça, c'est la même chose. L'espérance de vie est mauvaise, elle est courte. L'espérance de vie est faible. Et puis, quelle est la dimension de bonheur dans une telle maison? C'est impossible. Alors le diable essaye de nous faire croire qu'on peut avoir telle ou telle situation, qu'on peut avoir telle ou telle chose, mais nous sommes tous prisonniers. Nous sommes tous prisonniers même de nous-mêmes, de notre corps. Nous sommes prisonniers de nos pulsions, de nos envies, de tout ce qui est là autour de nous. Allez, achète-toi le dernier smartphone qui est sorti, tu vas voir, tu seras vraiment heureux, tu seras bien. On achète le dernier smartphone sorti, on est content quoi, 2 minutes ? Mais après, il y a encore le besoin d'autre chose. Pourquoi? Parce qu'on est éternellement insatisfait, parce que nous sommes en prison. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes que victimes de tout ce qui a triomphé de nous. Nous ne sommes victimes de... Certains essayent de se libérer à travers l'alcoolisme, d'autres essayent de se trouver une porte de sortie à travers le tabac, d'autres essayent de se trouver une sortie à travers le sexe, ou je ne sais. Mais ils ne peuvent constater qu'une seule chose. C'est qu'ils sont prisonniers de ça. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils ne sont pas libres. Mais pourquoi? Parce que nous sommes tous prisonniers. En la personne de Jésus-Christ, Dieu s'est infiltré parmi les prisonniers pour les libérer. Et dans cette jungle qui est la nôtre, alors qu'il était parmi nous pour nous annoncer, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu nous annoncer plusieurs choses. Il est venu nous ouvrir la voie de la sortie. Il est arrivé avec un plan. Il est arrivé avec le plan de la maison, avec une sortie de secours où on peut être libre. Il est arrivé avec ça. Mais personne ne l'a cru. Il est venu aussi pour nous dire notre vraie histoire. Qui nous sommes? Où est-ce qu'on va? Comment on va terminer notre vie si on reste dans cette maison qui est vouée à la destruction? Quel est le danger de rester là, dans cette maison? Il est venu nous dire tout ça. Personne ne l'a cru. Parce que le diable, il sait bien faire les choses, il sait bien enrober les choses, il sait bien mentir comme il faut, et il sait bien nous faire croire que notre seule espérance de vie est celle de rester là, emprisonné, et qu'on n'aura pas meilleur bonheur que de rester là. Il nous a tellement déformés que on n'arrive même pas à regarder à la fenêtre, voir qu'il existe le grand air. Non, nous restons enfermés. Jésus est venu aussi nous dire de qui nous sommes vraiment fils. Jésus est venu nous annoncer que Dieu nous cherche. Cet après-midi, Dieu te cherche. Tu es peut-être en prison cet après-midi. Tu es victime, peut-être, je l'ai cité, de l'alcoolisme, du tabac, de je ne sais. Peut-être que tu es en déprime parce que rien ne va dans ta vie, parce que tu es dans les difficultés atroces. T'arrives pas à t'en sortir. Dieu te cherche et Dieu, il voit où, dans quelle prison tu es et il veut que tu puisses vite sortir libre de là. Il est venu pour ça. Il est venu pour te chercher. Il est venu pour que tu puisses connaître qui tu es vraiment. Peut-être que tu dois ignorer que Dieu est ton créateur jusqu'à ce jour, et que là tu le découvres. Il est venu t'annoncer une voie de sortie. Il a dit lui-même, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Voilà ce qu'il a dit. Mais tous ceux qui sont emprisonnés dans cette maison lui ont dit, « Mais arrête avec ta liberté. Tu vois bien que c'est impossible. Arrête avec ça. Tu démoralises tout le monde avec tes idées farfelues. C'est impossible. On est en prison. » Jésus a continué. Il guérissait les malades autour de lui. Il annonçait la bonne nouvelle de Dieu. Il faisait du bien. Il était toujours avec ce même discours que la liberté est possible. Et c'est ainsi que ceux qui l'entouraient ne l'ont pas supporté et l'ont tué. Heureusement, il est venu avec le plan de la maison. Et il est resté là, le plan. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est venu nous annoncer la possibilité de sortir. Il y a une sortie. Cette sortie, elle est en forme de croix. Tu es né sous X, tu peux renaître sous X, mais pas le même. Et cette renaissance te permettra d'avoir une vraie identité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il te faut renoncer à cette vie de prisonnier. Mais regarde à la fenêtre. Regarde le grand air. Regarde tout ce qu'il y a autour de toi. Mets le nez dehors, tu vas voir. Tu vas te sentir enfermé. L'humanité est enfermée dans le péché. L'humanité est enfermée. Nous sommes dans ces corps-là qui sont de nature pécheresse. Et dès notre naissance, nous avons été volés. Mais Dieu nous cherche. Dieu te cherche. Je le redis encore cet après-midi. Dieu te cherche et il te veut auprès de lui comme des parents qui cherchent leurs enfants qui ont été enlevés. C'est l'amour de Dieu qui a fait qu'il a envoyé son propre fils pour mourir pour toi, pour que tu puisses être réconcilié avec lui. Dieu t'aime. Il veut te voir sortir de là. Il te faut renoncer à cette vie de prisonnier. Mais est-ce que c'est compliqué quand on voit la liberté à côté? Eh bien, quand on a connu que ça, vous avez déjà testé avec des animaux? Vous mettez des animaux en cage depuis leur naissance et vous ouvrez la porte de la cage. Regardez s'ils sortent. Ils ne sortent pas. Parce que pour eux, ils sont en prison. Le malheur, c'est ça. C'est que combien d'hommes et de femmes ne considèrent même pas la liberté. Ils ne considèrent pas, ils préfèrent rester dans leur prison, leur petite cage leur plaît bien. Ils ont peur de ce qu'il y a dehors, et pourtant de quoi ils se privent? Les grands espaces, la nature, les belles forêts, la mer. C'est ça la liberté. C'est pas de rester dans sa cage. Et le Seigneur veut que tu puisses sortir. Mais il faut renoncer à cette vie de prisonnier. Il faut demander à Dieu son aide pour que tu puisses te sortir de ce péché qui est là, qui t'enferme, ce péché qui est là sur toi et qui t'empêche de vivre, ce péché qui te lie, qui fait que tu fumes cigarette après cigarette sans pouvoir t'en sortir, ce péché qui est là, qui te fait boire verre après verre sans que tu puisses t'en sortir. Demande à Dieu du secours, il veut te secourir. Et tu verras ce que c'est que d'être libre une fois qu'il t'aura libéré. Demande le secours à Dieu par la foi. C'est ce qu'il désire. Il veut que tu puisses sortir. La Bible dit qu'à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, racheté. La rançon a été payée. Il y a eu un enlèvement, il y a eu une rançon de demander. La rançon a été payée. Tu peux sortir. Tu peux sortir, mais est-ce que tu le veux ? Il faut savoir une chose, c'est que cette maison un jour sera détruite, avec tous ceux qui sont à l'intérieur. Le diable y est, et ceux qui le suivent y sont aussi. Et si tu ne sors pas de là, tu y es aussi. Et un jour, cette maison-là sera détruite. Dieu, parce qu'il t'aime, te supplie de sortir de cette maison. Cette maison de l'horreur, on le voit dans les actualités, on a froid dans le dos, et quand on réalise que nous y sommes, d'un point de vue spirituel, ça ne fait pas le même effet. Mais pourtant, c'est la réalité. Tu es en prison. Tu es dans une prison qui va être détruite par le feu. Et le Seigneur t'invite à sortir parce qu'il désire te faire du bien. Il désire t'entourer. Il désire faire de toi son enfant, comme on l'a chanté. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. D'après vous, ces enfants qui se sont fait enlever, elle est où la vraie liberté ? D'avoir fait leur propre choix, de prendre un moment, de suivre un inconnu et de se retrouver emprisonné, ou de se lier au cadre des parents, de dire « ne parle pas aux inconnus ». Rester avec leurs parents, ils auraient connu tellement de choses. Ils auraient connu la vraie liberté. Ah oui, mais c'est la loi. Mais non, c'est pas la loi. Dieu pose un cadre pour que tu puisses être libre. C'est ce cadre-là qui te donnera la liberté. Et si tu sors du cadre, tu vas t'enfermer. Le Seigneur t'appelle cet après-midi. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. La porte de sortie, elle est là. La porte de sortie, elle est là. Elle est ouverte. Et comme je l'ai dit, cette maison, ce monde sera détruit un jour. Un jour, le Seigneur reviendra. Et tous ceux qui auront accepté de s'échapper, de demander au Seigneur le secours, seront sauvés. Et tous ceux qui auront préféré rester sans réfléchir seront perdus à tout jamais. Mais sache que ça fait mal au cœur de Dieu de savoir que tu es perdu. Comme ces parents qui ont perdu leurs enfants. Dieu pleure sur ta vie. Il pleure sur ta vie. Il ne veut pas que tu te perdes. Il veut te sauver. Il te veut auprès de lui, que tu puisses être heureux, que tu puisses être dans la paix, dans la joie, dans la vraie liberté. Sors de ta cage. Sors de cette cage. Elle est maudite, cette cage. Il te faut suivre le Seigneur. Il a donné sa vie. Il est mort pour toi sur la croix. Il était sans péché. Et parce qu'il était sans péché, tu peux être pardonné de tous tes péchés. Tu peux obtenir la liberté. Il faut appeler au secours, il faut demander au Seigneur qu'il vienne te secourir. Oui, tu es en prison, mais tu peux en sortir. Est-ce que cet après-midi, quelqu'un veut dire à Dieu, je veux m'en sortir. Seigneur, viens à mon secours, s'il te plaît, sauve-moi.